de l'inspiration sont toujours, en tous les cas pour moi, un défi et puis sympa à trouver. J'ai bien aimé la parole que Jean-Marc a apportée mercredi soir sur les projets de Dieu, tirés de Éphésiens. Donc Dieu a pour nous des desseins, des projets bienveillants. Et puis pendant ce temps de prière, eh bien, c'est déposé dans mon cœur, voilà la conviction de ce partage ce matin. C'est un enseignement qui me suit depuis 34, 35 ans. Je l'ai entendu pour la première fois avec Michel Renevier lors de séminaires. Et puis c'est un thème que j'ai toujours bien aimé. Donc on va parler un petit peu de la guérison intérieure, comment est-ce que Dieu peut nous accompagner sur ce chemin au travers de ce qui est arrivé, ce qu'a vécu Caïn, qui est un exemple négatif, c'est un exemple à ne pas suivre, et voir comment Isaac et puis Joseph, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, comment Dieu les a secourus, accompagnés, tirés d'affaires. On lit ensemble dans le livre de Job. On va lire quelques versets du livre de Job. Il n'y a pas que de la souffrance chez Job, mais il y a aussi des choses... il a vécu des choses difficiles. Et dans pas mal de domaines, ça peut nous parler. On lit au chapitre 5, les versets 7 et 8. C'est le constat de tous les philosophes. Hein. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Je ne sais pas si vous faites le même constat. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. C'est des interrogations qui sont millénaires et je pense qu'elles ne seront pas épuisées. Malgré tous les travaux de santé des médecins, des psychologues, que sais-je encore, je pense que si on allait dans une bibliothèque et qu'on cherchait à travailler ce thème de la souffrance, on en aurait pour quelques années de recherche et beaucoup de transpiration. Et je ne sais pas si on aurait beaucoup de réponses finalement au bout de cette recherche. L'Écriture, bien sûr, nous parle de la souffrance et je pense qu'il y a tellement de réponses dans l'Écriture que ça vaut le coup de s'y pencher. On lit encore dans Job au chapitre 5, les versets 17, 18 et 19. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Nous avons toutes nos questions, pour qui, pourquoi, comment, pourquoi maintenant, pourquoi ça. Voilà, c'est les interrogations qui sont universelles, elles sont puissantes, elles sont profondes dans nos vies. Et je dirais là, on n'a pas toujours les réponses à tout. On peut se tourner vers tous les thérapeutes, tous les pasteurs, toute la relation d'aide. Il y a des réponses. On ne les a peut-être pas tous. C'est beau quand on peut avoir la réponse en direct, en tête à tête avec Dieu. J'en ai eu quelques-unes, c'est un mixte. Hein. Nos vies sont accompagnées de guérisons rapides, de guérisons progressive, et puis de choses qui restent en suspens, jusque quand ? Voilà, c'est notre chemin, c'est notre vie de foi avec Dieu, au niveau de la crainte, du rejet, nos blessures intérieures, nos traumatismes, nos frustrations. Je vous fais grâce de tous les termes que l'on pourrait utiliser pour décrire ces vies intérieures. L'Écriture dit simplement des cœurs brisés. Voilà, je crois que ça fait partie de nos réalités incertaines. J'aimerais lire avec vous, toujours dans le livre de Job, un épisode de ma vie, là je veux quelque chose d'un peu personnel, un texte que j'ai reçu en rentrant du collège biblique en mars 80. J'étais dans le train et puis à l'époque, je lisais ma Bible, tout à suivre. Et puis c'est le jour où je devais lire ce texte de Job au chapitre 11 et le verset 13. Et depuis 36 ans, ce texte m'accompagne. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Voilà, c'est toujours avec un peu d'émotion que je relis ce texte. Des jours auront plus d'éclat que le soleil et son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi. Tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. De relire ces textes, voilà, ça suscite toujours. Alors, voilà, ça c'est mon chemin à moi. Je constate au fil des années que des choses, j'ai pu les classer, les abandonner. Voilà. Tu oublieras tes souffrances. Je ne sais pas quel est votre chemin, je ne sais pas quel est votre vis-à-vis. Avec la souffrance, bien sûr, cette promesse pour moi n'est pas un absolu. Il y a toujours des choses qui ne veulent pas dire que tout est facile. Mais en tous les cas, par rapport à ce que j'étais il y a plus de 40 ans, waouh, le poids du passé a quand même été allégé. Et Dieu a conduit ma vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, ecclésiale, voilà, dans des chemins qui ont construit ma vie plutôt que ce qui l'a détruit. J'aimerais lire avec vous le premier chapitre d'Ésaïe, au chapitre 1, les versets 5 et 6. À ma conversion, c'est le livre d'Ésaïe que j'ai lu en premier. J'étais très en colère avec mon passé catholique, tout ce qui était idolâtrie, donc j'ai trouvé de quoi m'énerver et passer mon énervement dans le livre d'Ésaïe. À l'époque, j'aurais aimé mettre des bombes dans toutes les églises catholiques pour faire exploser toutes ces statues et ces idolâtries. Il m'a fallu quelques années pour me calmer, mais Ésaïe m'a aidé à calmer mes nerfs. Ésaïe au chapitre 1, les versets 5 et 6. C'est des versets, un texte qui est un petit peu choc. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par lui. Le prophète parle bien sûr là du peuple d'Israël. Mais c'est aussi un texte moi, qui m'a percuté. Dès que j'ai lu Ésaïe, mai 74, je me suis converti ce texte, et puis je me suis dit, voilà, mais ça, c'est le constat de ma vie. Il n'y a que de la révolte, de la tête jusqu'aux pieds, tout est malade. Il n'y avait pas grand-chose à conserver, et ça m'a fait, pas un coup de déprime, un coup d'effondrement. Avant de se convertir, on ne se rend pas tellement compte de l'état où on est. Et quand on vient à Dieu, waouh, tout d'un coup, j'ai pris comme une masse, comme un choc, l'état dans lequel j'étais, puis je me suis dit, il y a à manger dessus. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Seigneur, il y a du travail. Tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensé, ni bandé, ni adouci par lui. Est-ce qu'on veut laisser dans nos vies l'occasion au Seigneur de penser, de bander, d'adoucir par lui nos blessures, nos plaies, ce qui ne va pas dans la vie. Est-ce que je peux concevoir que je peux laisser aller, que je peux abandonner ma vie au pardon de Dieu pour que dans ma vie les choses soient remises en ordre? On lit dans Jérémie au chapitre 15. Jérémie 15, le verset 18. Je vous lis ce texte pour que vous voyez les préoccupations des hommes sont les mêmes dans tous les temps, dans toutes les époques, à quelque niveau que ce soit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Les interrogations du prophète là vont loin, vont profondément, et il interpelle Dieu, il lui dit, mais est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Et toujours, il y a toujours le pourquoi. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi ces circonstances, pourquoi telle difficulté? Pourquoi? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Des guérisons dans nos vies qui sont instantanées. Il y en a d'autres qui prennent du temps. Certaines, on les découvre en cours de route. J'allais dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour découvrir les sources de tension, les effondrements, les creux, les difficultés qu'il y a dans nos vies. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Jérémie, là, avait des ennemis qui étaient extérieurs, mais parfois nos ennemis extérieurs, intérieurs, deviennent pour nous. Voilà, des choses qu'il faut combattre, sur lesquelles il faut gagner du temps dans nos vies. On lit encore dans Jérémie au chapitre 30, on est sur le même auteur, le verset 17. Une promesse, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est tellement beau quand on peut laisser l'accès à la main guérissante de Dieu dans nos vies. Il a plus de tact et de douceur que ceux de notre entourage. Souvent dans nos vies, la fratrie, les frères et sœurs, les conjoints, les enfants, on essaye tous de recadrer ou d'aider ou d'accompagner ou de vouloir transformer ceux qui sont à côté de nous. Laissons d'abord accès au Dieu qui agit, qui vient dans nos vies, qui l'accompagne, qui la transforme. Il y a dans nos vies des alternances de souffrances, de promesses de guérison. Avançons avec. Et voilà, laissons trouver le sens dans nos vies aussi à toutes ces difficultés, à toutes ces pourquoi, à toutes ces souffrances. Les prophètes, on dit particulièrement Jérémie, on les appelle les Jérémiades. Pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est nécessaire? Seigneur, pourquoi je dois avoir tel positionnement? Pourquoi c'est à moi de faire ci, de faire ça, de dire ceci, de dire cela? Je crois qu'il y a un dicton qui doit être latin, on dit un esprit sain, une âme saine, un corps sain, dans un corps sain, S-A-I-N, on peut y rajouter peut-être un esprit sain, S-A-I-N-T. Pouvoir laisser cet abandon de nos vies à Dieu, faire son œuvre. Laissons-le intervenir dans nos vies, s'approcher de nous, se rapprocher de nous. Faisons-le volontairement. N'attendons pas les dégâts collatéraux de toutes nos souffrances, de tout ce que nous avons vécu dans le passé. Mes deux, trois premières années de vie chrétienne, je crois que je les ai passées au quotidien, pratiquement toutes les soirs, à me remémorer tout ce que j'ai vécu qui était difficile. Et dire, voilà, Seigneur, mets ta lumière et puis agis. Alors bien sûr, il y a toutes les choses dont on est victime. Cela, c'est facile de les remettre à Dieu. Et puis il y a toutes celles où c'était nous qui étions le bourreau. Il y a le mal qu'on nous a fait, il y a le mal que j'ai fait. Seigneur, comment est-ce que ton pardon, ta lumière, ta grâce, ton huile, ton esprit peuvent venir nettoyer, peuvent venir apaiser, peuvent venir reprendre ces situations. Pendant quelques années, j'ai pris une feuille et j'ai marqué toutes les craintes que j'avais. L'année où je me suis converti, j'ai un paquet de craintes. Avant, je n'en avais pas tellement conscience. Un petit peu, mais vous savez, on met plein de couches dessus. Et puis, moi, j'étais un peu foufou, donc on vit, et puis on ne s'inquiète pas trop. Et puis, ma première année de conversion, je me suis dit, ah, les punaises, c'est ça, et tout ça. Puis, je me suis aperçu que j'ai été élevé avec tout plein de trucs qui coinçaient. Je n'osais pas rentrer dans une poste, dans une mairie, dans une banque. Quand je rentrais, je rasais les murs. Dès qu'on posait le regard sur moi, je me décomposais. J'aurais été pratiquement incapable d'être dans un entretien d'embauche. C'est des choses qui me... Comment est-ce que le Seigneur peut réparer tout ça? L'année où je me suis converti, j'ai compris qu'il faudrait qu'un jour, je sois devant dans la prédication. J'ai dit, Seigneur, moi, je... Voilà, et puis comme tout le monde dit, ben on voit qui tu pourras, il y en a sûrement d'autres. Et le Seigneur nous dit, vas-y, approchons-nous de Dieu volontairement, séparons-nous de toutes les sources de troubles, de difficultés. Je disais, il y a les choses qu'on nous a faites, nous sommes victimes, il y a les choses où c'est nous le bourreau, il y a le péché, nos mauvaises habitudes. Beaucoup d'entre nous ont ce réflexe de chercher au-delà du pourquoi. Qui est responsable? Mais c'est pas moi le responsable, c'est l'autre. Chercher, vouloir se défausser toujours sur un tiers. Soyez attentifs autour de vous. Chrétien, non chrétien, vous trouverez toujours quelqu'un dans votre environnement qui vous dit pourquoi tous les autres, toutes les situations, toutes les circonstances sont responsables. Et le diable, si vous saviez, ma pauvre dame, combien il me persécute, combien il est méchant, combien il m'embête, combien il ne me laisse pas tranquille. Et couche après couche, c'est pas moi, c'est l'autre, ça vous rappellera peut-être. Toujours la tentation d'un tiers, le rejet sur l'extérieur. Parfois c'est le contraire, c'est moi qui suis le grand coupable, et puis on s'enfonce et on s'effondre. Ça s'appelle l'introspection. C'est pas que c'est pas utile, mais bon, là aussi, jusqu'où? C'est pas mon introspection qui va me sortir de la difficulté. Mais simplement, voilà, comment laisser la lumière de Dieu. Une petite citation que j'ai trouvée quelque part, alors c'est d'Alfred de Musset. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. En même temps, voilà, la souffrance est un maître, un guide. Je ne pense pas qu'elle soit inutile si on lui trouve si on peut lui donner une direction, pas la justifier, mais lui trouver une direction et surtout un soulagement, une guérison. Mais la souffrance est un fait, elle est universelle. Comment rentrer dans un chemin de guérison? Il nous a dit du fils prodigue étant rentré en lui-même. Il dit, je me relèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai beaucoup péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père, lui, voulait pouvoir trouver dans nos besoins des guérisons, de soulagement intérieur, ses bras ouverts d'un cœur de père, un dialogue profond, sérieux, tête à tête avec Dieu. dans le psaume 121, les versets 1 et 2. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé, qui a fait les cieux et la terre. C'est quelqu'un de fier. On lit ensemble dans Genèse au chapitre 4, un petit épisode, un exemple négatif. Oh, je vais lire. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelques jours, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Caïn a vécu le rejet de manière assez forte. Il adore Dieu selon sa volonté propre. Il voit que ça ne marche pas, donc il se met en colère envers Dieu. Il refuse le sacrifice pour le péché. Il refuse de dominer sur le péché. Il tue son frère, il devient meurtrier. Il ment, parce que Dieu lui dit, mais c'est toi qui as tué ton frère. Oh non, je ne suis pas au courant. Pas vu, pas pris. C'est pas moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il devient vagabond, il est chassé loin de la présence de Dieu, il est sous une malédiction. Et malgré tout, néanmoins, il demeure l'objet de la sollicitude de Dieu. Dieu met un signe sur son front, un signe de protection. Cette fois. La société a été marquée par toutes ces premières histoires. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 12, nous dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui tua son frère. La haine, le meurtre, sortir de l'amour de Dieu, le rejet, rejet de Dieu, rejet de l'autre. Un exemple à pas suivre. On lit ensemble au psaume 112, le verset 7. Il est question d'être heureux, l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, il ne chancelle pas, la mémoire du juste durera toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a pas de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Caïn craignait les mauvaises nouvelles. Heureux le juste, parce qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est une nouvelle manière de vivre, c'est une nouvelle assise dans la vie. J'en ai eu tellement besoin, pouvoir déposer ces fardeaux, ces incompréhensions, les choses difficiles, et recevoir autre chose en héritage. On lit dans Genèse, au chapitre 22, juste quelques versets. Verset 2, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous voyez le récit, là, cet homme déjà âgé, part avec son jeune fils, pour lui c'est l'unique, c'est l'héritier. Il charge sur ses épaules le paquet de bois, prend le couteau à la main et puis on y va. Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Je ne sais pas s'il se doutait de quelque chose. Il marche avec son père en confiance. Et puis, en marchant, il l'interroge. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Toute sécurité, en toute transparence. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac. Je vous laisse imaginer les sentiments, ce que vit Isaac à ce moment-là. Il a confiance dans son père, mais il est... Toutes les trahisons, on dit maternelles, paternelles, parce qu'il s'agit, je ne sais pas si, on peut, si le mot est trop fort, mais c'est pratiquement de cet ordre-là. Les chocs, les blessures que chacun a vécues avec sa parenté. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Mais juste avant, c'est le fils qui est allié. Et son père qui était prêt à l'égorger. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais il y a peut-être tous les temps où dans nos parentés, dans nos familles, ça n'a pas été pourvu. Et le choc a été violent. C'est bien Abraham qui tient le couteau. C'est le père, c'est la figure du père. On avait Jérémie qui disait, mais est-ce que tu serais pour moi une source d'eau polluée, quelque chose de... où la relation est difficile. Toutes nos interrogations par rapport à notre passé, à notre vécu, à notre famille, à notre travail, à notre relation avec Dieu, à notre relation avec nous-mêmes. À la montagne, il sera pourvu. Dieu a pourvu pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Israël, pour Joseph, pour toute la descendance. Dieu a été fidèle. Il a aussi donné des corrections au peuple d'Israël de manière régulière. Il y a eu bénédiction sur plusieurs générations. Je ne sais pas comment cet épisode a marqué la vie d'Isaac. Comment est-ce qu'il a pu après avancer avec cet épisode de sa vie? Est-ce que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu? Est-ce que ça lui a suffi? Est-ce que ça l'a accompagné? Est-ce que ça a guéri son cœur? On lit ensemble dans Romains au chapitre 8, verset célèbre, 28, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la vie de Joseph, ça a été particulièrement vrai. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ses desseins, ses projets sont bienveillants. Jean-Marc nous l'a rappelé mercredi soir. On n'utilise plus tellement ce mot maintenant, le mot de providence. C'est un mot qui vient du Moyen-Âge, du latin, du XIe siècle, qui vient aussi comme prévoyance. Aujourd'hui, on parle plus de prévoyance, santé, maladie, que de providence. C'est pourvoir, c'est pareil, c'est la même chose que Dieu a pourvu. C'est voir avant. Dieu voit avant. Il sait ce qui se passe, ce qu'il va se passer dans ma vie. Il porte un regard sur le passé, sur le présent, sur l'avenir. Dans la vie de Joseph, il peut avoir sur sa vie deux regards. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y en a aussi des mauvaises. On va juste les lister rapidement. Joseph est aimé par son père. Il est pris en haine par ses frères. Il y en a 11. Son père lui fait une tunique de toutes les couleurs. Ses frères ne lui parlent pas avec amitié. Il rêve, il voit des germes qui se prosternent. Ça va crescendo. Ses frères le détestent de plus en plus. Incompréhension, frustration, jalousie. Il reste auprès de son père, ses frères vont garder les troupeaux et il complote pour le faire mourir. Bonne nouvelle, il y a Ruben qui parle pour lui et qui dit « lui faisons pas de mal ». Mauvaise nouvelle, ses frères disent « tuons-le », certains plus que d'autres. On veut le jeter dans une citerne, Ruben veut le sortir d'affaire. Dans la citerne, il n'y a pas d'eau, il lui ôte sa tunique. Mauvaise nouvelle, il le vend à une caravane ismaélite pour 20 sicles d'argent, vendu comme esclave en Égypte. Bonne nouvelle, il est vendu en Égypte à Potiphar, qui est officier de Pharaon, chef des gardes, et grâce à la bénédiction de Dieu, eh bien, il va pouvoir se rétablir et puis se refaire une santé. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagne. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mauvaise nouvelle, la femme de Potiphar veut le séduire et le mettre dans son lit. Il est obligé de s'enfuir et laisse son vêtement. Mauvaise nouvelle, on le met en prison. En prison, l'Éternel fut avec Joseph. Et il retrouva la faveur du chef de la prison. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ouf, c'est une bonne nouvelle. Le responsable des chansons, le panetier du roi, sont incarcérés. Joseph reçoit l'explication des songes. Mauvaise nouvelle, il leur dit, quand vous serez sortis d'affaire, donnez-moi un petit coup de main. Mauvaise nouvelle, il est oublié. 2 ans plus tard, il y a le rêve du pharaon. Joseph donne l'explication, il donne des suggestions pour gérer les 14 années à venir. Bonne nouvelle, ses paroles plurent à pharaon et à tous ses serviteurs. Finalement, c'est comme dans nos vies. Il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. Mais finalement, ce sont les bonnes nouvelles qui vont triompher. Pendant 15 ans, je pense que Joseph va vivre des bons moments, des mauvais moments, mais je pense que c'est les bons moments qui vont l'emporter. On lit encore comme dernier texte dans Genèse au chapitre 45, le verset 5. Verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Les frères doivent commencer à transpirer. « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. » Quel renversement de situation. Joseph aurait pu râler après ses frères, après la terre entière, et regarder que les mauvaises nouvelles. Mais à un moment donné, il s'arrête, et dans sa relation avec Dieu, il dit non. Je reconnais maintenant que tout ce qui m'est arrivé, Dieu l'a voulu pour le salut de ma fratrie, de ma patrie, de mon père, de leur bien, de leur troupeau. Comment est-ce que je peux changer mon regard sur les choses difficiles que ça a ? Pendant des années, j'ai pris du temps, j'ai pratiquement tous les soirs, voilà, Seigneur, tel souvenir, telle chose, est-ce que, voilà, pose ta lumière dessus et est-ce qu'on peut le retravailler, le revoir. Voilà, non pas pour dire c'est la faute, simplement pour trouver la paix. Être la paix avec sa patrie, ses pères, ses parents, quelles que soient les difficultés. Mon père est décédé avant que je devienne chrétien et souvent, moi, je lui en ai voulu. Donc il m'a fallu du temps pour retravailler, sculpter ou retailler l'image de mon père dans ma vie. C'est pratiquement un œuvre de 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas si c'est encore terminé. Parce que parfois, il peut m'arriver encore de... Non pas d'avoir de remonter ici, mais de dire, voilà, mon père n'a pas été ce que j'aurais aimé qu'il soit. Voilà, mais Seigneur, à chaque fois, il faut... Pardon est un... Ça se mange froid. Et c'est à renouveler de manière régulière. Un dernier texte dans Genèse au chapitre 50, les versets 19 à 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous, vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. C'est peut-être celui qui aura eu besoin de consolation, qui a la capacité, parce que Dieu l'accompagne et guérit, c'est lui qui console les autres. Je ne sais pas comment auront été les relations après. Mais dans les familles, il y a un tel poids. On dit les secrets de famille. Tel poids dans la relation avec les parents, avec les frères et sœurs. Comment est-ce qu'un jour je peux dire Dieu l'a changé en bien ? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie un peu plus loin. Quand je me laisse guérir dans ma vie intérieure par Dieu, c'est source d'encouragement, de consolation pour ceux qui s'entourent, source d'enseignement. C'est tellement beau, une vie que Dieu a restaurée, que Dieu a comblée, C'est le témoignage aussi qui peuvent aider les autres. On va prier ensemble. Père Céleste, merci de nous conduire sur ce chemin. Merci parce que toi, tu as offert ton propre fils pour nous guérir. Merci parce que c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Père Céleste, merci de nous accompagner dans tous ces temps, ces circonstances, ces moments où nous avons besoin de paix, de guérison intérieure, de démêler dans nos vies tous ces fils de la crainte, du rejet, de la peur et tellement d'autres choses. Ça touche les choses essentielles de nos vies. Merci de les transformer et de faire que dans nos vies, cela devienne des sources de paix, de plénitude, de contentement, de reconnaissance, qui peuvent être aussi utiles à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et de nous ouvrir nos vies à ta lumière, à ton pardon. Aide-nous à assumer nos vies telles qu'elles sont, pas toujours telles qu'on voudrait les voir, mais voilà, aide-nous à grandir, comme cela a été dit tout à l'heure, grandir en foi, en esprit, dans les dons spirituels, mais aussi dans toute cette paix, tous ces appuis intérieurs dont nous avons besoin pour nous développer. Amen. Juste un petit livre, j'ai aussi tiré beaucoup de ça, un livre qui a plus de 30 ans, Guérison intérieure de Ramsey. Je vous laisse là.
Amen. Je vais demander à Corinne et à Fanny d'aller se préparer.